9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures, émission d'échange, d'information, de découverte avec vos témoignages pour nous faire réfléchir et avancer dans cette lecture de l'actualité. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Alors que les réunions de crise se sont succédées à l'Élysée et à Matignon hier, les autorités s'accordent sur un point, trouver des solutions radicales pour éviter un nouveau samedi d'affrontement. On va voir les pistes envisagées par le président, le premier ministre, les services concernés pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. Nous entendrons les commerçants pris pour cible ce week-end, les citoyens que vous êtes, évidemment, réagir face aux différentes mesures, notamment l'interdiction des manifestations sur les points les plus dangereux. N'hésitez pas, on vous entend. Le standard est ouvert dès maintenant, Julien.
C'est le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis, je vous le disais, à 10h, en fait, avec un petit peu d'avance, ce sera en avril, les 40 ans de Starmania, à l'occasion de la sortie d'un livre mémoire, Mon Starmania, de la première serveuse automate version 79. C'est la chanteuse québécoise Fabienne Thibault, devenue une star après ses 33 représentations culte. Eh bien, nous revivrons avec vous cette aventure, les chansons qui vous ont marqué. Voilà le sommaire jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec les dysfonctionnements autour du maintien de l'ordre mis en exergue samedi, que pensez-vous des mesures annoncées par le Premier ministre? On vous livrera les résultats d'une consultation Facebook dans un instant sur le sujet, Julie. Et j'accueille nos différents invités. D'abord en studio, Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour.
Avec nous, le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en ligne également depuis Lyon avec le politologue spécialiste des questions de police, directeur de recherche au CNRS, Sébastien Rocher. Bonjour Sébastien Rocher.
Bonjour Sébastien.
Sébastien Rocher, absolument. On va parler de cette réorganisation du maintien de l'ordre et reprendre ces mesures point par point. Revenir avec vous d'abord sur la conséquence directe de ces débordements. Un limogeage, celui du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, Christophe Rouget, clairement ça signifie que ces dysfonctionnements sont de sa responsabilité.
C'était celui qui s'occupait de l'organisation des services d'ordre sur Paris. Mais vous savez, on est dans un pays où on limoge facilement une personne. Et je crois qu'il faut surtout qu'on réforme les structures. Nous, ça fait des années qu'on demande justement qu'on ait un vrai directeur général de la police nationale qui puisse tout coordonner, comme on a un directeur de la gendarmerie. Dans la police nationale, on a la préfecture de police qui doit gérer sur le terrain, pour que vos éditeurs comprennent, des effectifs de gendarmes, des effectifs qui sont policiers, mais qui font partie de la préfecture de police, qui est elle-même séparée en plusieurs directions.
Oui.
Tout ça depuis des écrans, dans une salle de commandement, alors que parfois, les effectifs sur le terrain, nos collègues qui commandent directement la tenue sur le terrain qui doit faire les interventions, n'ont pas les bonnes informations et n'ont pas la responsabilité pour le faire. Donc il faut une chaîne hiérarchique unique, il faut un directeur de la police nationale qui soit fort, qui commande tout le monde, et que nos collègues sur le terrain puissent intervenir. Ce week-end, on avait par exemple des effectifs à l'angle d'une rue qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres effectifs à l'angle de l'autre rue. Donc c'était assez compliqué et vous avez ce genre de dysfonctionnement qu'il faut arrêter.
Donc voilà. il paye pour une désorganisation, mais Christophe Castaner disait de lui qu'il manifestement il avait été débordé par la situation, parce que vous venez d'exprimer notamment, Christophe Rouget.
Oui, il avait aussi été fragilisé, souvenez-vous, par l'affaire Benalla.
Oui.
Il faut faire attention, ce n'est pas un homme qui va tout changer. On a un problème de réflexion du maintien de l'ordre. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu des investissements, qu'on n'a pas eu de réflexion. Les ministres se succèdent et nous disent « on va créer tous les ministres ». Monsieur Cazeneuve, après l'affaire Sivens, nous ont dit « on va réfléchir sur le maintien de l'ordre ». Monsieur Sarkozy avait baissé les effectifs, on a perdu 10% des effectifs de maintien de l'ordre.
Oui.
Donc, on paye tout ça aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas en une semaine, effectivement, qu'on va pouvoir tout révolutionner.
C'est sûr, une chaîne de responsabilité, une chaîne de fonctionnement. Sébastien Rocher, il y a quand même une difficulté aussi à comprendre comment les décisions sont descendues du ministère de l'Intérieur jusqu'à la préfecture de police de Paris, avec manifestement une interprétation qui n'était pas la bonne sur la stratégie de maintien de l'ordre.
Oui, disons qu'on sacrifie les préfets. C'est la solution de facilité,
oui.
On l'a fait précédemment à Lyon. Ça évite peut-être de s'interroger sur les responsabilités politiques au niveau supérieur, parce que le préfet de police a en permanence à rendre compte directement et à préparer les opérations sensibles avec le cabinet du ministre.
Mmh.
Je serais étonné que le changement de préfet résolve les problèmes qui se situent au-dessus du niveau du préfet. Bon, c'est ce qui vient d'être dit, je suis complètement d'accord sur la nécessité de la réflexion, d'une approche globale, de tenter de moderniser le maintien de l'ordre comme l'ont fait beaucoup d'autres grands pays européens.
Oui, sachant qu'il faut se mettre à la page aussi de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de guérilla urbaine, d'émeute urbaine, qui est dans l'espèce, à Paris notamment, assez nouveau.
On n'était pas du tout dans le cadre...
Non, Sébastien Rocher, allez-y.
Oui, non, les Allemands connaissent très bien les Black Blocs, les groupes d'extrême gauche depuis les années 70, avec la lutte contre les missiles Pershing américains, puis les luttes des mouvements antinucléaires, puis les luttes des mouvements anti-globalisation autour des G7, G10,
absolument.
G20, etc. Mmh. Donc, les Anglais connaissent très bien les phénomènes d'émeute, puisqu'on est avec l'Angleterre, l'autre pays qui les a connus. Donc, on n'est pas du tout une exception, ce qui nous singularise. C'est de ne pas se moderniser, de se moderniser uniquement par la technique. On va augmenter la portée des LBD ou réduire la portée des LBD. Bon, c'est grossièrement insatisfaisant.
Or,
c'est insuffisant.
C'est ça. Il faut se moderniser aussi sur la manière dont les groupes, dont les troupes évoluent sur le terrain, Christophe Auger.
Tout à fait, sur la doctrine d'emploi, sur le schéma d'intervention. Mais pour compléter ce que dit M. Rocher, on est quand même dans un phénomène nouveau. C'est-à-dire que là, on a des appels qui sont faits par des leaders de l'Gilets jaunes, je fais la différence, qui disent, on va aller sur des lieux qui sont interdits, puisque c'est déjà de facto le cas, comme sur les Champs-Élysées, sachant très bien que finalement, on va faire venir, au-delà des gilets jaunes, des casseurs, des blocs qui vont être là et qui vont venir faire ça.
Donc on a 1500 recensés.
Ils ont une responsabilité, j'appelle ça de la délinquance par procuration, par diffusion. On le voit bien, en fait, finalement, on dit, peut-être nous on ne va pas casser, mais finalement, on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont le faire pour nous, pour justifier notre mouvement, pour faire parler de lui, c'est la solution. Donc on a ce problème-là qui est quand même relativement nouveau. Et puis on a un effet aussi, c'est les Black Blocs. Les Black Blocs, d'abord, c'est juste une technique d'intervention. C'est des gens de l'ultra-gauche qui, pendant des semaines, sont venus au contact. Leur théorie, c'est quoi? On va au contact, comme ça on parle des violences policières, parce que quand on va au contact, il y a des problèmes.
On provoque.
Et ensuite, on utilise les réseaux sociaux et tout. Et finalement, à un moment donné, l'État baisse la garde. On dit, tiens, on va limiter l'usage des LBD, on va...
Ouais.
Et finalement, on fait un coup d'éclat.
C'est très organisé, ce que vous voulez dire.
C'est très organisé, et en fait, on voit bien que leur stratégie, elle a fonctionné.
Et nous, on ne s'est pas suffisamment adapté. Je vais laisser la parole maintenant, une fois que ce contexte a été posé, sécuritaire, au premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Vous vous êtes interrogé aussi sur ce déferlement de violence qui a été manifeste et si rapidement.
Mmh. Oui.
Ça vous a posé question?
Bah oui, parce que d'abord, nous avions début décembre une forme d'alibi de l'inconnu, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une radicalisation rapide, une infiltration au début décembre, ça a été une forme de surprise. Enfin, on ne peut pas dire que d'ici samedi après, l'argument de la surprise puisse encore être mobilisé. Et ce qui nous a beaucoup surpris, je le dis, en ayant passé ma journée de samedi au centre de crise de la ville de Paris, c'est d'avoir pendant de très longues heures observé sur les écrans vidéo l'impuissance de fait de la police à pouvoir reprendre la main sur les Champs-Élysées. Je ne dis pas que la situation est facile, mais enfin, nous avions tiré un certain nombre de leçons du 17 novembre, du 1er décembre, qui avait permis d'ajuster le dispositif le 8 décembre, avec notamment la création de ces petites unités très mobiles, mobilisant à la fois les BAC, à la fois la BRI, etc. Alors, ce qui pose un autre problème de surmobilisation de force, mais il y avait une réponse qui était une réponse d'intervention rapide pour aller au contact des individus les plus violents. Parler de 1500 Black Blocs est, à mon avis, un excès de langage de la part du gouvernement.
C'est-à-dire ?
Il n'y avait pas 1500 Black Blocs.
Ils étaient plus ou moins ?
Ils étaient beaucoup moins. Hein, beaucoup moins. En réalité, ils sont au maximum quelques centaines. Les spécialistes nous disent autour de 150-200 en réalité. Mais par contre, du fait de l'ultra-violence qu'ils mettent en scène et, j'allais dire, du goût médiatique à la provocation qu'entraîne ce type de comportement, c'est vrai que s'y ajoute ce que les spécialistes appellent les ultra-jaunes, en gros, une partie de manifestants qui participent, qui se laissent entraîner par la violence des éléments les plus radicalisés. Et nous, ce que nous demandons, et notamment ce sera l'objet de la rencontre ce soir entre la maire et le Premier ministre, c'est quels moyens sont déployés pour empêcher physiquement de réassister à des saccages, à des pillages, comme on y a assisté samedi. Pourquoi ? D'abord parce que c'est inacceptable de laisser des territoires, je pense à Paris,
et on va y revenir dans
mais
le détail,
à d'autres aussi, Point éprouvé, mais aussi parce que je trouve ça extrêmement perturbant d'un point de vue démocratique, qu'on donne le sentiment qu'il suffit d'être 200 énervés pour mettre en danger, entre guillemets, les doctrines de sécurité publique dans notre pays.
Pour mettre à sac une ville comme la vôtre.
Il y a des moyens d'intervention, il faut désormais que l'État les mobilise.
Emmanuel Grégoire, juste après la pause, je vais faire réagir Christophe Rouget et Sébastien de Rocher, nos spécialistes police, sur ce que vous venez de traduire en images, l'impuissance de la police à contenir ces débordements, ce que vous avez vu derrière vos écrans de contrôle. À tout de suite sur Europe 1 et on vous donnera le résultat de la consultation sur ces mesures annoncées. Est-ce qu'elles peuvent stopper l'escalade de la violence? N'hésitez pas, on vous attend au standard avec Julien.
Le 39-21, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment le gouvernement peut-il rétablir l'autorité après ce qui s'est passé samedi à Paris? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
On va vous faire réagir dans un instant sur les différentes mesures annoncées par le gouvernement pour éviter cette escalade de violence. On le souhaite samedi prochain. Mais d'abord, revenons sur ce que vous venez de souligner, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Vous étiez à la cellule de crise à Paris, derrière ces écrans de contrôle toute la journée de samedi. Et vous avez vu comment agissaient les forces de l'ordre face à ce déferlement de violence. Je voudrais que vous nous décriviez ces images pour que Christophe Rouget, commandant de police, et Sébastien de Rocher, politologue et spécialiste de ces questions de police, puissent aussi analyser ce que vous avez vu.
Et d'abord, il faut comprendre la logique, le trait commun de ces 18 semaines de mobilisation. C'est vraiment symboliquement, de la part des mobilisateurs les plus violents de ce mouvement, de faire de l'Élysée une cible. Mmh. C'est-à-dire que c'est un trait commun systématique. C'est pas un hasard si au départ ça s'est cristallisé sur les Champs-Élysées. En réalité, ils ne venaient pas sur les Champs-Élysées, ils venaient à l'Élysée, tout court, et il se trouve que c'est sur les Champs-Élysées que le moyen d'accès le plus simple, le plus large, le plus grand, au contact du périmètre de sécurité, c'est là que ça s'est cristallisé. Nous avons assisté samedi à ce à quoi nous assistons.
Ajoutons que le périmètre de l'Élysée est évidemment totalement hermétique et protégé.
C'est à notre sens un des points qu'on a observé et qui a été d'ailleurs relevé par un certain nombre de vos collègues de syndicats de policiers. C'est clair qu'on voit bien que la priorité, et c'est bien normal, nous la soutenons, j'insiste beaucoup là-dessus, est de maintenir un périmètre sécurisé autour des grandes institutions. L'Élysée, l'Assemblée nationale, le cas échéant Matignon. Oui. Le Sénat, c'est un peu différent parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une menace objective de la part des
Gilets jaunes. Mais ça a des conséquences.
Et ça a des conséquences très importantes. Pourquoi ? Parce que quand on veut tenir le périmètre, c'est énormément consommateur de troupes. Oui. Et c'est ce à quoi on avait assisté à partir du 17 novembre avec un point culminant le 1er décembre, où en fait on protège le périmètre, on rajoute cette notion de « fan zone », entre guillemets, c'est-à-dire de zone à filtrage pour les Champs-Élysées, mais qui fait que les manifestants, et notamment les plus durs d'entre eux, restent en réalité à l'extérieur du périmètre. Et où la manifestation, je le rappelle parce qu'on finit par oublier, la manifestation avait été autorisée et organisée au Champ de Mars, autant vous dire, pas un gilet jaune n'était allé au Champ de Mars, évidemment.
Il y avait son, quoi.
Et du coup, ça n'avait été compensé, les exactions du 8 décembre, que par la capacité à mobiliser très vite des policiers pour aller au contact, interpeller tout de suite. Or, samedi, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Samedi, il y a eu une défense du périmètre et les forces de l'ordre n'intervenaient qu'en cas d'extrême urgence. Extrême urgence, c'est deux choses. C'est les incendies, et heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là pour le faire. Ça redit aussi la violence criminelle d'un certain nombre des acteurs de cette mobilisation. Et deuxièmement, leur dépillage. Mais pendant toute la journée, pendant des
c'est
heures.
C'est quoi le dépillage? Après quoi.
Après, exactement. Ouais, et donc pendant des heures, nous assistons avec une forme d'effarement à l'impuissance des policiers. Les Black Blocs viennent au contact, les mouvements les plus extrémistes viennent au contact, saccagent les magasins. Et les policiers en sont les témoins, je le crois, très frustrés.
Ça veut dire qu'il y avait une consigne, Christophe Rouget, c'est de ne bouger que dans ces deux points d'urgence et surtout pour protéger la population. C'est-à-dire on pouvait laisser s'en prendre aux biens immobiliers, ce n'était pas la préoccupation majeure ce samedi ?
La préoccupation majeure des services de police et du maintien de l'ordre à la française, c'est d'éviter qu'il y ait des victimes parmi les manifestants, parmi les policiers. C'est vrai que malheureusement, si vous maintenez des gens à distance, parfois ils arrivent pour casser. Je suis entièrement d'accord avec ce constat. Deux choses. Pourquoi il y avait moins d'effectifs? D'abord parce que ce conflit, c'est un véritable conflit intérieur, il dure depuis 4 mois. Donc il faut mobiliser des policiers tous les week-ends. Vendredi, il y a eu des manifestations de lycéens. Il fallait des policiers pour protéger le déroulement de ces manifestations. Le jour même, il y avait la manifestation pour le climat où des gilets jaunes avaient prévu éventuellement de s'infiltrer. Ouais. Il fallait aussi des policiers pour ça. Il faut des policiers pour protéger les institutions, l'Assemblée. Et donc, c'est difficile d'être partout parce que si vous bloquez les Champs-Élysées, ça a été fait sur d'autres manifestations. Malheureusement, des commerces, il y en a partout dans Paris, ils peuvent aller partout. Et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un pays schizophrène. Parce qu'en décembre, je me souviens bien, quand on a eu ces 1000 interpellations, on a dit, mais on est dans une dictature, on empêche de manifester. Alors que nous étions là, dans les gares, dans les péages, pour récupérer les objets qui allaient servir d'armes pour la manifestation. Ensuite, on a eu les polémiques sur l'LBD, on a eu les polémiques sur les violences policières. Et quand tout d'un coup, on s'aperçoit que si on intervient, qu'on ne va pas au contact, ben les gens cassent davantage, on dit alors la police ne fait plus rien. Donc on est quand même dans un pays un peu schizophrène.
C'est très compliqué. Juste après la pause, Sébastien de Rocher, je vais vous faire revenir et réagir justement sur le très faible interpellation, taux d'interpellation ce samedi. Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais vous reveniez sur ce chiffre le 1er décembre de 1000 interpellations. Seulement 230 personnes interpellées ce samedi. Qui étaient-elles exactement, ces personnes, qui étaient ces individus? A tout de suite sur Europe 1, on fait le tour de la question et je donnerai la parole à Jocelyne qui veut s'exprimer sur le sujet.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors que la pression monte du côté de l'exécutif pour trouver une parade au déchaînement de violence dans les manifestations, les interrogations demeurent quant à la capacité du gouvernement de stopper les saccages des casseurs et des ultras. Wendy Bouchard.
Oui, on a parlé du limogeage du préfet de police de Paris. On va parler de l'interdiction de manifestations dans les zones très sensibles, notamment les Champs-Élysées, la place du Capitole à Toulouse. Sébastien de Rocher, vous êtes avec nous depuis Lyon, spécialiste des questions de police. Est-ce que vous voulez réagir aux propos qui viennent d'être tenus, notamment sur l'impuissance de la police à contenir la situation décrite par Emmanuel Grégoire il y a un instant, notamment sur les Champs-Élysées?
Oui. Oui, je voudrais revenir sur le cadre en fait général. Ce qu'on sait par l'analyse des manifestations qui deviennent violentes à l'échelle de l'Europe occidentale, c'est que c'est le résultat d'une interaction. Mmh. Donc dans une interaction, il y a deux parties. Il n'y a pas juste les mauvais gilets jaunes et les gentils policiers ou les gentils gouvernements, c'est plus compliqué que ça. Il faut être peut-être un peu moins manichéen. Je ne parle pas des intervenants. Je suis assez en accord avec ce qui a été dit. Mais comme il y a cette interaction, il faut regarder la dramatisation qui a été proposée comme interprétation par M. Castaner depuis décembre. La vision d'une France factieuse qui voudrait renverser les institutions. Bon, c'est évidemment une analyse qui est erronée. Moi, j'ai travaillé en Turquie, j'ai travaillé en Tunisie, j'ai travaillé en Égypte comme conseiller pour la Commission européenne ou pour d'autres organisations internationales. La situation en France n'a absolument rien à voir. Bon, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément dans le conflit, c'est le conflit, l'interaction sur le terrain. Et là, il ne faut pas non plus oublier les violences policières. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des dégradations et des pillages. Et il y en a eu. Mais les violences policières font partie de ce qui va constituer l'interaction de la prochaine manifestation, parce que les gens ont une mémoire. Ça, c'est le premier point.
Donc, on a demandé, pour faire clair, Sébastien Rocher, on a demandé aux policiers d'être davantage statiques pour éviter ce genre de comportement et de dérive, précisément.
Voilà, moi, et je pense que c'était une bonne idée. Moi, je pense qu'on a qu'on fait un procès qui n'est pas juste, en tout cas pour le week-end dernier, à la police, au préfet de police de Paris, parce qu'il n'y a pas eu d'impuissance. Si on regarde le bilan...
On a sacrifié quand même le bilan. On a sacrifié une avenue.
Mais quand il y a eu des personnes qui étaient en danger, les pompiers sont intervenus sur la protection des policiers. Oui, les policiers ont calmement fait évacuer, on a vu aussi les images, cette femme qui avait son enfant. Donc il n'y a pas de perte de contrôle du territoire.
Mais c'est pas satisfaisant, Sébastien de Rocher.
Ah non, je ne dis pas que c'est satisfaisant, mais c'est un équilibre qu'on va trouver. Et si on dit, si on appelle ultra-violence une situation dans laquelle il n'y a pas un mort, comment on appelle une situation où on relève des cadavres et des
bien
personnes
bien sûr, bien
utiles.
Sûr, oui.
Voilà, il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai travaillé dans d'autres contextes. Il y a une ultra-médiatisation et qui peut se comprendre, mais c'est pas ça une ultra-violence. Et le dernier point que je voudrais dire, effectivement, il y a chez les jaunes, des ultra-jaunes qui se sont eux-mêmes radicalisés. Mais ils se sont radicalisés à l'expérience des confrontations dans les manifestations précédentes et dans l'impossibilité du dialogue politique, parce que la sortie de la crise, c'est le dialogue politique. Donc après, on peut entrer effectivement dans les aspects plus techniques de est-ce qu'on protège l'Élysée ou est-ce qu'on protège les Champs-Élysées. Ce n'est pas une mauvaise question, hein. Mais la surestimation, si vous voulez, de la menace factieuse par le gouvernement l'amène à surprotéger l'Élysée, alors qu'en fait, personne ne veut prendre les institutions. Hein.
Oui.
Personne ne va prendre les institutions françaises, la radio, télévision, etc.
Oui, oui, mais c'est bien la cible, hein, Christophe Rouget. C'est bien la cible.
Les réseaux sociaux sont clairs à la matière.
Alors, malheureusement.
Effectivement.
Mais ça détourne l'attention, c'est sûr.
Ça détourne l'attention. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort. On a échappé de peu. Je rappelle qu'il y a eu un incendie, heureusement que souligne le courage des policiers et des pompiers qui sont intervenus.
Ouais.
Vous aviez quand même des gens qui disaient on va faire brûler les riches.
Ouais. Hein,
vous avez eu des milliers de projectiles
terrible,
qui ont été lancés sur les forces de l'ordre. Vous avez des convois, alors que les policiers passaient, qui ont été attaqués.
Ouais.
C'est des policiers qui ont été lynchés. Ouais. Donc effectivement, il y a eu une violence qui a été très grande, même si, heureusement, il n'y a pas eu de ces... Moi, je tiens à dire quand même que le courage de ces policiers sur le terrain depuis 4 mois... Il n'y a pas eu de victime, alors qu'on a vu des scènes quand même terribles de policiers à l'Arc de Triomphe, parce qu'on oublie la vidéo de nos collègues à Lyon, qui passaient aussi sur l'autoroute, qui se sont fait attaquer. Donc,
vous aussi, vous dites ça suffit, évidemment, et vous voulez aujourd'hui une stratégie qui protège à la fois la population et qui permette à vos hommes d'agir convenablement.
Il faut être plus efficace, parce qu'avec l'info en continu, les images, on ne peut pas supporter ces casses. Et le pouvoir politique est soumis à ce flux d'informations qu'on n'avait pas avant. Maintenant, vous avez les chaînes d'info continu qui diffusent ces saccages, alors que vous ne les aviez pas après. Donc ça a changé la donne du pouvoir politique. Mais nous, on veut que nos services d'ordre soient plus efficaces, mais le meilleur des services d'ordre ne va pas arriver pour solutionner une réponse qui doit être politique.
Sébastien de Rocher, je vais vous libérer juste pour répondre à ce que vient de souligner Christophe Rouget aujourd'hui.
Bah oui, simplement, je pense qu'il faut garder raison, c'est tout. Je pense que si tout le monde dramatise ce phénomène, on crée une crise qui n'existe pas. Les institutions françaises sont solides. Il y a des mécanismes de représentation qui sont critiqués, mais qui existent. Il y a une police qui est formée, qui est professionnalisée et qui n'a pas besoin, selon moi, de LBD et de grenades de désencerclement. Et il y a effectivement un groupe de personnes qui sont déterminées à utiliser la violence comme moyen d'action politique.
Deux mots pour conclure. Voilà. Est-ce qu'il faut plus d'interpellations est-ce que l'interdiction des manifestations, notamment sur ces grandes artères, est utile?
Moi, je pense que je partage l'idée que ça va déplacer le problème. Je ne vois pas comment on peut interdire la manifestation ici et ne pas imaginer qu'elle va ressurgir
dans
ça
un quartier,
ou là.
Donc,
je vois mal comment ça va être suffisant.
Ouais.
Il fallait répondre symboliquement et je pense qu'à nouveau, on est dans le symbole,
Et
dans la communication.
Merci Sébastien de Rocher. Juste après la pause, je vous donne la parole, Emmanuel Grégoire, justement sur ce problème déporté. Hélas, énormément d'appels au standard. Les commerçants se mobilisent. Nous avons des citoyens de Toulouse, de Bordeaux, de Caen qui veulent aussi réagir. Je vous donne à tous la parole, chers amis. Jocelyne, Jérôme, Marie-France, à tout de suite sur Europe 1 avec nos invités. On fait le tour de la question pour limiter ces violences et faire en sorte que ce samedi qui s'annonce soit plus pacifique. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Rappel de notre consultation, la question Facebook du jour. Selon vous, les mesures annoncées par Édouard Philippe peuvent-elles stopper l'escalade de la violence? Non à 86%. C'est énorme, hein?
Ouais.
Non à 86%. Alors, quelques exemples de commentaires. Celui de Yoshe. J'étais un gilet jaune pacifiste, maintenant plus ça va, plus ma colère monte. Milly nous dit, je crains qu'au contraire, les gilets jaunes destructeurs ne voient cette annonce comme un défi et la violence montera d'un cran. Signé JP ce message, seule une dissolution calmera cette crise. Et puis un autre son de cloche, Jean-Claude nous écrit, je ne comprends plus, on ne fait rien et ça râle, on prend des mesures et ça râle. La France est devenue un pays ingouvernable, on est devenu un peuple de sauvages.
Ouais, et comment le gouvernement justement peut rétablir l'autorité après ces saccages de samedi? Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est avec nous. Le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire également. Dans un instant, on entendra José Kiosquier sur les Champs-Élysées à Paris, qui a vu devant lui son outil de travail brûlé, pris pour cible. Julie nous écrit de Balma en Haute-Garonne, Christophe Rouget. J'habite à Toulouse chez nous et c'est comme ça tous les samedis depuis 4 mois, depuis le début des manifestations. Je suis choquée que tout le monde soit surpris par cette violence. Le gouvernement ne râle et ne prend des mesures que quand Paris est atteint. Vous connaissez bien cette région de Haute-Garonne, Christophe Rouget. C'est pas faux ce que dit Julie aujourd'hui.
comme vous pouvez l'entendre, je connais bien cette région, effectivement. Et tous les samedis, les rues de Toulouse, comme celles de Bordeaux, se transforment en des vastes champs de contreplaqués, où les magasins sont fermés, où vous avez des vigiles qui sont devant les magasins. Et puis finalement, tout se termine dans du lacrymogène, des feux, des incendies. Donc c'est vrai que c'est dramatique. Et Paris est dans un contexte particulier. Les Champs-Élysées, c'est l'image du monde. Et donc, si les Gilets jaunes vont là, c'est pour cette raison.
Oui.
Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un impact médiatique.
Mais est-ce que les sanctions sont plus fortes à Toulouse et à Bordeaux? Parce qu'on va parler de l'arsenal judiciaire qui est un peu inopérant aujourd'hui pour les casseurs parisiens.
Oui, c'est un constat. Mmh. C'est un constat. Les jugements, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été jugées, comme je le disais tout à l'heure, en grande majorité des Gilets jaunes, qui n'étaient pas connus des services de police. Les peines d'en province, on va dire, sont plus sévères qu'à Paris, parce que vous avez un phénomène de masse. Vous avez des manifestants qui sont très nombreux, des comparutions qui sont multiples, et vous avez des condamnations qui sont inférieures sur Paris, parce que c'est compliqué pour les magistrats, avec tout ce qu'ils ont comme personnes à déférer, à juger. Et on a effectivement des peines qui sont... Moins fort.
Donc,
sur Paris, c'est un constat.
En comparution immédiate, ils étaient comme quoi de sursis et c'est à peu près tout.
La difficulté, c'est de judiciariser, d'apporter des preuves que ces personnes-là ont commis des actes. Et donc, comme souvent, c'est des primo-délinquants, on a des rappels à la loi, on a des choses comme ça. Donc, une des mesures, par exemple, de mettre à 135 euros quand on va sur un attroupement...
C'est interdit.
C'est une mesure qui est...
Plutôt que 38 euros.
Peut-être une goutte d'eau.
Oui.
Mais vous, lorsque vous prenez votre voiture, si vous garez mal ou que vous franchissez un peu rouge, vous aurez une amende qui est sévère. Et là, vous avez des gens qui viennent sur un attroupement qui est interdit, où on casse les Champs-Élysées, et finalement, à la fin du jugement, on leur dit « c'est pas bien, c'est un rappel à la loi ». Au moins, il y aura cette contravention.
Marie-France est avec nous depuis Caen au 39-21. Bonjour Marie-France. Je sais que vous êtes en voiture. Bonjour Marie-France, est-ce que vous pouvez réagir et questionner nos invités? Bonjour à vous. Bon, vous n'entendez pas. Alors, nous sommes avec Jocelyne au 39-21. Bonjour, Jocelyne.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission.
Merci à vous, madame.
Les citoyens peuvent s'exprimer.
Oui, merci.
Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà que ceux qui appellent à manifester via Facebook soient mis en garde à vue avec une amende et une interdiction de manifester. Je pense aussi que les forces de l'ordre, toutes seules, elles ne peuvent pas boucler Paris. Donc, moi, ce que je pensais, c'est qu'il serait bon, enfin, boucler Paris, mettre des amendes, et puis en plus, emmener les gens au commissariat, c'est pas possible. Donc, moi, je pensais qu'on pouvait mettre les forces de l'ordre pour faire barrage et aller au contact, mais que derrière, on ait l'armée sans armes, avec des camions et caméras, pour emmener les manifestants qui sont tout de même venus.
Oui,
On est aussi des haut-parleurs pour avertir avant d'intervenir qu'ensuite, y aura des fumigènes et des lances à eau et que l'amende, elle soit vraiment plus sévère que ça, que ça aille jusqu'à 200 euros. Et alors, dernière chose, que les passants, qu'on ferme toutes les artères où il y a beaucoup de magasins, avec l'aide de l'armée et toujours un petit peu de force de l'ordre, et qu'on mette des barrières pour que les personnes qui veulent faire des courses puissent accéder, et que les gens qui rentrent, on vérifie leur sac, qu'il n'y ait pas d'armes, qu'il n'y ait rien, et surtout informer par tous les médias que si on va à ce genre de manifestation, il y a des risques de violence, et que ceux qui viennent tout de même prennent des risques et sont complices.
Eh bien, Marie-France, vous avez bien étudié la question.
Et ouvrir uniquement le champ de Mars.
Merci, Jocelyne. Marie-France est avec nous et je vais faire réagir nos invités. Bonjour sur vos propos. Vous rejoignez
Jocelyne.
Bonjour, Marie-France.
Bonjour. Moi, je pensais mettre l'armée le samedi devant les magasins pour éviter toute cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez?
Christophe Rouget, vous pouvez répondre parce que ça fait deux fois qu'on nous parle de l'armée. C'est quelque chose qui revient régulièrement. La police est mobilisée, les gendarmes CRS également, et l'armée dans tout ça. Nous demande Jocelyne et Marie-France en cœur.
C'est très compliqué. Je ne vais pas parler au nom des militaires, mais je vais vous donner quand même notre point de vue. C'est que l'armée, si vous mettez des militaires qui sont armés avec des armes qui ont des balles réelles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres armes que des balles réelles, si vous les mettez devant des magasins ou même pour défendre l'Élysée et qu'à ce moment-là, ils sont attaqués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils s'en vont, soit ils utilisent leurs armes réelles. Il n'y a pas d'autres alternatives. Donc c'est très compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est donner vraiment les moyens aux forces de l'ordre d'avoir les moyens d'intervenir avec efficacité sur le terrain.
Et les moyens, vous ne les avez pas aujourd'hui?
On ne les a pas parce que ça fait très longtemps. Quand vous avez les véhicules blindés de la gendarmerie qui ont 45 ans, Ben non, on n'a pas les moyens. Quand vous avez des effectifs qui ont baissé, quand vous avez des canons en haut qui sont en nombre insuffisant, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Et c'est bien là tout le problème.
Merci Marie-France, merci Jocelyne. Juste après la pause, Emmanuel Grégoire avec Jérôme et avec Joël qui veulent s'exprimer comme commerçants. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Interdire les manifestations dans certains quartiers des grandes villes, durcir la riposte policière, limoger un préfet de police, est-ce que ça sera suffisant pour rétablir l'autorité du gouvernement? Wendy Bouchard.
Il faut rassurer un certain nombre de citoyens et pour 86% d'entre vous, vous répondez que ces mesures annoncées ne pourront pas stopper l'escalade de la violence. Résultat d'une consultation au Facebook, on espère vraiment que la situation sera pacifique samedi. Et on en parle avec Christophe Rouget, commandant de police, et Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. La maire de Paris qui sera reçue cet après-midi 17h par Édouard Philippe avec des dossiers, des doléances, on va y revenir, 80 magasins vandalisés sur les Champs-Élysées. Et pour tenter d'éviter des attaques similaires, on entendait cette auditrice Jocelyne qui dressait un certain nombre de recommandations. Emmanuel Grégoire, vous l'avez entendu avec
oui, sympathie. D'abord saluer toutes ces propositions, parce qu'on voit bien qu'elle avait réfléchi au sujet. Et j'ai trouvé deux choses très intéressantes. La première, c'est quoi ? On teste plein de choses, elle évoque plein d'idées, beaucoup ont déjà été mises en œuvre, certaines fonctionnent pas du tout, on le sait. Notamment l'idée de faire des zones fouillées, etc., ne fonctionne pas pour une raison très simple que chacun peut comprendre, c'est que si vous faites ça, eh ben les clients ne viennent plus dans les commerces. Donc fondamentalement, vous ne réglez pas votre souhait, qui est une forme de retour à la normalité. Je suis tout à fait défavorable à la sécurisation de l'espace public par l'armée. Elle n'est pas formée pour ça, elle n'est pas équipée pour ça. Nos militaires ont déjà bien d'autres choses à faire sur le risque terroriste et sur les opérations extérieures. Peut-être une réflexion sur la surveillance des bâtiments ou l'armée pourrait être un peu plus mobilisée, si ça permet de libérer des troupes pour d'autres missions, pourquoi pas. Mais on voit bien que c'est compliqué. Et la deuxième chose qui m'a intéressée dans son témoignage, c'est qu'à la fois, elle témoignait d'une demande de très grande fermeté, mais en même temps de très grande bienveillance. C'est-à-dire qu'elle dit on va envoyer l'armée, mais pas armée, parce qu'il ne faut pas qu'elle tire, faut pas. Donc, c'est, je pense, au cœur du problème, c'est que tout le monde aspire à l'ordre, tout le monde aspire à la normalité, mais tout le monde veut quand même être respectueux des libertés publiques, de la liberté de manifester, on veut juste que les gens ne cassent pas. Et donc c'est cet élément de l'équation qu'il faut revenir. Mais comme le disait Sébastien de Rocher tout à l'heure, j'ai quand même plusieurs sujets qu'il faut avoir en tête. Un, et vous l'évoquiez vous aussi, rien ne fait plus plaisir à des extrémistes que la violence. Et dans leur stratégie médiatique, politique, leur rêve, c'est d'arriver à des combats extrêmement violents entre les forces de police, si possible l'armée, alors là ce serait l'idéal, et ces groupes d'activistes. Pour deux raisons, c'est que d'abord ils sont habitués à ce genre de confrontation, et deuxièmement qu'ils ont des formes de boucliers humains avec les autres manifestants et la population civile dans les centres urbains. C'est pour ça que c'est là que ça se concentre. Et d'ailleurs, je le dis, pas que Paris est concerné, évidemment, on évoquait Toulouse, mais en réalité, toutes les villes de taille importante sont concernées. On en discute dans le cadre de France Urbaine, qui est, vous le savez, l'association des grandes villes. Toutes les villes, et on en parle moins à la télé,
Nantes à Bordeaux,
mais toutes les grandes villes, Nantes, Bordeaux, Rennes, Dijon, Le Mans, Toulouse, Lyon, Marseille, sont confrontées depuis des semaines à ce phénomène. Et donc, personne ne doit être oublié en la matière. Mais il ne faut pas laisser à penser, et c'est un petit peu le risque que je sens suite à la journée exécrable que nous avons connue samedi, que c'est uniquement par la réponse sécuritaire que nous allons réussir. Pourquoi ? Parce que le gouvernement va monter le ton, il va reprendre un peu de terrain dans le rapport de force avec les Black Blocs, qui vont rentrer à la maison et s'apaiser pendant 2-3 samedis, et ils reviendront dans 3 ou 4 semaines.
D'ailleurs, c'est pas un hasard bien expliqué
que les plus extrémistes et que les plus violents des leaders des Gilets jaunes disaient déjà on va faire 2-3 semaines de pause et on se retrouve dans 3. Donc, le risque à ne rentrer dans ce débat que par l'angle sécuritaire, c'est d'exacerber encore les tensions et d'arriver
à
un drame. Eh bien, il faut faire plusieurs choses à la fois. Un, utiliser l'arsenal pénal préventif pour appréhender notamment ceux qui appellent de façon manifeste à la violence. Oui. Et je le dis, nous, à la ville de Paris, lorsque nous sommes saisis d'une vidéo dans laquelle nous considérons que l'auteur de la vidéo fait un appel manifeste à la violence, à la dégradation des biens et encore plus à la mise en danger des personnes, eh bien, nous transmettons au procureur de la République, et la maire entretient des relations exigeantes avec le procureur pour faire en sorte qu'il y ait des suites d'enquête.
Ça veut dire que la loi le permet aujourd'hui.
Bien sûr, vous n'avez pas le droit de dire sur une vidéo que vous allez brûler les maisons des gens. Notamment, j'ai une vidéo en tête où l'auteur disait aux habitants du 16e, en les appelant comme ça, les riches du 16e, en leur disant « déménagez parce que nous allons venir brûler vos maisons ». Nous connaissons les écoles de vos enfants. Enfin, voilà.
Donc, c'est
inacceptable. Tous les citoyens méritent protection de la République. Mais il faut une réponse politique et sociale. Sinon, nous n'arriverons pas à dénouer cette crise.
Le sécuritaire ne suffira pas. À tout de suite avec les témoignages de Jérôme et de José Rousseau, kiosquier sur les Champs-Élysées, qui veulent réagir également. Je vous lirai aussi les mots d'Anne-Lise. À tout de suite.
9h-11h. Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question, les dernières minutes de l'émission. Comment le gouvernement peut-il rétablir l'autorité face au déferlement de violence ? On a un témoignage d'Anne-Lise. Je suis parisienne originaire de Toulouse. Là-bas, les commerces ferment dès le vendredi soir. Donc fermer la place du Capitole ne sera pas suffisant. C'est peut-être bien, mais les casseurs iront ailleurs. Il faut des mesures adaptées à chaque ville.
Et les commerçants en ont marre. Vraiment, 170 millions d'euros, voilà ce qu'auront coûté déjà les dégradations commises en marge de ces manifestations, selon la Fédération française de l'assurance, sans compter ceux qui ont perdu leur outil de travail, comme vous, José Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accorder quelques minutes sur Europe 1. Sentiment d'abandon pour vous aussi. Vous avez eu le temps de fermer votre kiosque à journaux juste avant qu'on y mette le feu. C'était samedi sur les Champs-Élysées. Quelles consignes aviez-vous reçues, vous, personnellement, José, de la part de la préfecture de police?
Aucune. Mmh. Aucune consigne. C'était plus du bouche à oreille. C'est-à-dire que aussi bien les gens du quartier que ma clientèle qui me disaient qu'à chaque fois que ça risquerait d'être chaud, même la veille. Le samedi, vous ouvrez, est-ce que vous fermez? Non, on va ouvrir. Et puis tout à l'heure, si ça va être chaud, nous on avait... j'avais plutôt confiance à ce qu'avait fait une fois dernièrement la préfecture, c'est-à-dire fermer les Champs-Élysées ainsi que les rues adjacentes. Mm-hmm. Et ça s'était très bien passé. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde parce que même les métros étaient fermés. Mais au moins, le quartier était quand même sécurisé. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que ce que j'ai vu samedi. Et c'est pour ça que j'étais surpris samedi. J'ai dit, mais excusez-moi, je vais être grossier. C'est ce qui me révolte. Mais c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait qu'une grosse ribambelle d'une masse jaune, après, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dans cette masse, mais qui arrive du rue de Colisée pour monter l'avenue, en scandant, bien sûr, des insultes envers Paris et les Parisiens. Je me dis déjà, ça risque de chauffer, quoi. On le voit, quoi. C'est là que j'ai pas compris comment ça se fait qu'on a laissé cette avenue comme une passoire.
Oui, et c'est vraiment le sentiment que vous avez eu. Vous avez dû fermer votre kiosque à la hâte et vous l'avez vu brûler sous vos yeux.
Exactement, oui. Et je crois que j'ai eu le bon instant.
Oui, manifestement.
Après, j'ai été voir même d'autres boutiques à dire fermer tout de suite. C'est pas la peine de rester, quoi.
Oui. Comment avez-vous réagi aux mesures annoncées hier par Édouard Philippe, notamment cette interdiction de manifester sur les Champs-Élysées pour les différentes semaines qui s'annoncent?
Je pense que c'est une sage décision. Problème, c'est que voilà, quoi, on va quand même aussi payer le prix. Commerçant, le fait qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de monde, il y aura peut-être que les riverains qui seront là. C'est quand même aussi encore une grosse perte.
Ouais.
C'est dommage.
On vous appelle sur la deuxième ligne, José. Vous êtes très sollicité, vous qui êtes malheureusement...
J'ai vu qu'on dirait que j'avais l'air d'être sollicité.
Malheureusement,
on pauvre
au chômage technique, on est vraiment navré parce que vous êtes ce commerçant de proximité qu'on aime tant et on comprend tellement pas ce symbole, cette violence à votre égard notamment. Jérôme est avec nous depuis Bordeaux au 39-21. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Comme à Paris, ça fait 18 semaines qu'on peut difficilement travailler le samedi. Vous êtes commerçant vous-même?
Oui, moi je suis commerçant. Le pire, c'est que dans mes salariés, j'ai des gilets jaunes et que ça devient juste inadmissible. Et moi, ce qui me choque énormément, c'est de dire on va vous protéger, on va vous aider, on va vous donner des aides. Ça, c'est tout le côté médiatique qu'on entend.
Oui.
Mais quelles aides on donne aux commerçants? On reporte l'URSSAF de quelques jours, de quelques semaines.
Oui, c'est ce que j'ai entendu.
Et à côté de ça,
ouais.
On voit des... Voilà. Donc il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de diminution. Nous, on a perdu 22% de chiffre d'affaires dans la période des soldes et la période de Noël, ce qui est une catastrophe. C'est-à-dire que moi, je suis à un mois du dépôt de bilan. Et surtout, quand j'allume la télé, je vois que les flics reculent, prennent les voitures, s'en vont. Donc ça veut dire qu'on laisse la ville aux bandits, aux racailles. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est la même chose à Bordeaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi, elle n'est pas faite par ceux qui tiennent la loi. Et je suis content qu'il y ait des invités prestigieux sur votre plateau. Mais aujourd'hui, chaque samedi, nos magasins sont tagués, abîmés, détruits. Et on croit que je suis riche. Je gagne 2 500 € par mois. De qui on se moque ?
On comprend votre désarroi, Jérôme, comme celui de José. José, vous, il y a une cagnotte Litchi qui a été mise en place pour vous aider. Ce qui vous touche, j'imagine, parce qu'il y a ce sentiment de solidarité. Mais face à cela, l'impuissance aussi des politiques, qu'allez-vous faire, vous ? Alors, la région va abonder un fonds d'urgence voté aujourd'hui, d'ailleurs, pour aider ses commerçants. Valérie Pécresse l'a annoncé, pour Paris, en tout cas. Et vous, Emmanuel Grégoire ?
Oui, nous l'avons fait également. On réajustera, évidemment, en fonction des dégâts, y compris de samedi dernier. Hein, mais c'est vrai que chaque conseils municipaux, les villes rajoutent au pot. Quand même un message très important que Anne Hidalgo rappellera au Premier ministre ce soir, qui est fondamental. D'abord, Bruno Le Maire, le ministre, a annoncé un fonds de 3 millions d'euros d'aide aux commerçants. C'est beaucoup trop faible. 3 millions pour tous les commerces qui ont été touchés, c'est évidemment beaucoup trop faible.
22% mais de baisse de chiffre d'affaires, nous disait Jérôme.
Voilà, surtout, c'est le deuxième critère sur lequel je veux insister, c'est que dans le cas où des commerçants sont victimes de dégradation liées à des événements, ils peuvent bénéficier d'indemnisation liées à la perte d'exploitation. Et ça dépend beaucoup de l'interprétation. C'est-à-dire que dans les périmètres dits de fermeture, c'est-à-dire les autorités de police ordonnent aux magasins de fermer. Oui. Là, ça donne droit à de l'indemnisation. En revanche, et c'est la majeure partie des cas, quand il s'agit uniquement de périmètres de réquisition, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de fermer, mais on vous alerte qu'il y a un risque, et donc à un moment donné, peut-être on vous demandera de fermer.
Mais là, on n'a rien dit, on n'a rien dit à José.
Si.
Ah bon ?
Et depuis 18 semaines, les Champs-Élysées sont un périmètre de réquisition. Ça veut dire, on sait quand même depuis 18 semaines qu'il y a un risque sur les Champs-Élysées.
Oui, il parle du bouche à oreille.
Mais non, c'est pas du bouche à oreille, il le sait. Le problème, c'est qu'il faut prendre l'ampleur du risque. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un risque qu'il y ait des incendies sur les magasins.
Oui,
donc
voilà, telle violence,
c'est un danger particulier. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement, et en l'occurrence l'administration, les administrations centrales, et une approche très ouverte et très bienveillante sur les demandes d'indemnisation faites par les commerçants. Faut que le gouvernement, dont c'est la mission, l'État, indemnise les commerçants sur le préjudice économique, que ce soit sur les dégâts via l'assurance, mais surtout via les pertes d'exploitation qui représentent évidemment le coût le plus important.
Et un mot pour conclure, Christophe Rouget, parce que Jérôme a parlé de ces voitures de police qui faisaient marche arrière et qui fuyaient face à la menace des casseurs. On a vu ça, évidemment, c'est ces policiers pris pour cible. Et donc un double sentiment d'abandon de la part de Jérôme, qui se sent aujourd'hui plus assez protégé par cette police qui craint aussi.
C'est très clair, mais si on interdit les manifestations, si on boucle les périmètres pour pas qu'il y ait d'incendie de dégradation, ça ne changera rien au problème économique. Malheureusement, les gens ne pourront pas venir faire leurs courses dans les magasins, donc c'est un problème. Après, effectivement, ces images, elles sont choquantes. On a vu des policiers. Pourquoi ils ont reculé ? Parce que si vous êtes à 20 effectifs de police, que vous êtes attaqué par 200 casseurs, soit vous reculez, soit vous faites usage de votre arme.
Ouais.
Donc, il faut à un moment donné savoir reculer pour éventuellement ensuite intervenir à un autre moment et essayer d'interpeller les meneurs qui ont commis ces interventions.
Merci Christophe Rouget pour ce point sur la situation, ce point aujourd'hui, alors qu'Anne Hidalgo rencontrera le Premier ministre pour faire part notamment de la détresse des commerçants que représentait ici José Russo, kiosqué sur les Champs-Élysées. Merci à tous vos appels, ils ont été très nombreux. Mathieu, Marie-José, Anne-Lise, Philippe, René, que je n'ai pas pu honorer, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, merci d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Allez, on va se faire du bien. Écoutez un peu de musique, et quelle musique, l'opéra rock 40 ans après Starmania, faites son anniversaire et Fabienne Thibault vient témoigner. À tout de suite, Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.